Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash résultat du week-end, un week-end chargé hein, puisque le football notamment a repris plein gaz, donc on va en parler. On va commencer par la CFC qui n'avait pas de match officiel mais un déplacement au Mans, un match amical programmé vendredi après-midi avec malheureusement une défaite 2-0 des hommes de David Jiguel face au Mans. Hein. On rappelle que le Mans c'est pensionnaire de National. Le week-end prochain la CFC se déplacera du côté de De Gaulle FC, le leader, un déplacement compliqué, d'autant plus que la CFC a perdu son meneur de jeu Léo Fichten qui est parti au Gaulle FC. L'annonce a été faite la semaine dernière, donc la CFC retrouvera certainement Léo Fichten sur sa route le week-end prochain. En Régional 1, la réserve de la CFC qui devait se déplacer à Fethia a été reportée. Cognac jouait chez la Lanterne Rouge Mussidan et victoire de Cognac 1-0, un but de Mazo qui permet aux hommes d'Alvin Henry de faire la bonne opération puisque Cognac remonte à la 8ème place avec 16 points. La réserve de la CFC est 10ème avec 15 points. Un match sur retard si potentiellement il y a un exploit du côté de Fethia. Les hommes de David Perrier pourraient remonter dans le top 6. En Régional 2 en poule A, super opération pour Le Roy qui se déplaçait à Niort-Saint-Florent, ancien pensionnaire de Régional 1. Victoire des Métallos 2-0, une super, vraiment une belle opération hein, puisque Le Roy est 4ème ce soir au classement avec 18 points. C'est vraiment ouais, une super opération, je le répète 3 fois, mais c'est vraiment le cas. En poule B, victoire 2. Merpin qui fait plaisir, la victoire de Merpin 1-0 du côté de Mignaloux-Beauvoir, une victoire aussi de la réserve de Cognac 1-0 contre la réserve de Choré et le match nul à l'extérieur pour Charente-Limousine qui fait match nul 1 partout contre Fontaine-le-Comte. Au classement, Charente-Limousine est 5ème avec 17 points, Merpin remonte à la 8ème place avec 13 points avec encore quelques matchs en retard. Et Cognac malheureusement reste dernier avec 6 points, mais ils ont obtenu une belle victoire hein, contre Choré qui est 4ème au classement, donc c'est prometteur pour les matchs qu'il reste. En Régional 2 toujours en poule B, match nul de Sireuil à domicile contre la réserve du SAM, la réserve donc du SA Mérignac 2 partout. En revanche, défaite malheureusement de Jarnac 3-1 du côté de Sainte. Sireuil est 4ème avec 18 points, Jarnac est 11ème malheureusement avec 10 points, une poule qui est menée par Nontron-Saint-Pardoux. En Régional 3, superbe opération pour Confolan qui s'impose à Limoges Viginal 2-0. Dans le même temps, Ruffec fait 0-0 contre la réserve de Panazol. Ruffec est 3ème du classement avec 22 points, Confolan est 5ème pardon avec 17 points. Vraiment une belle opération pour les hommes de Vincent Villedieu qui prennent un peu d'avance par rapport à la zone rouge. En poule F, la poule des Charentais, le match entre Soyaux et Verneuil-sur-Vienne a été reporté. La Roche-Rivière s'impose à Thénon-Limera 8-0. Ruel et Coulommiers-Chamier font 0-0. Donc un bon résultat puisque Coulommiers-Chamier est quand même deuxième au classement. Puis moyen, perd à Saint-Junien 1-0. Et enfin dans le derby charentais du week-end, Vindel et Saint-Ariex font 1 partout au classement. Saint-Ariex conserve sa première place avec 28 points, deuxième Coulommiers-Chamier 24 points, troisième Ribérac 20 points, les Charentais sont un peu plus loin au classement, Soyaux est 5ème avec 16 points, Vindel est 6ème avec 14 points, Puymoyen est 7ème avec 14 points, La Roche-Rivière est 10ème avec 10 points, et Ruel est 11ème et avant-dernier avec également 10 points. En poule G, la balade continue pour l'Alliance 3B qui s'impose du côté de Rive Droite 33-4-1. Les hommes d'Atlan Elarchi qui sont à 10 victoires et un match nul en 11 journées, eh bien comptent 8 points d'avance et un match en retard sur leur concurrent direct, puisque avec 31 points Barbezieux, eh bien vogue en tête. En district, je vais donner les résultats de la D1 et de la D2. Avec le match entre les Portugais du Gompontouvre et de Roulet qui a été reporté. Champigny-Bamoutier 4-3. Basso bat Merpin 3-1. Saint-Michel bat La Couronne 8-0. Lessac et Brie font 2 partout et la réserve de l'Alliance 3B s'impose chez la réserve de Le Roy. Au classement, premier Saint-Michel avec 26 points, deuxième Basso avec 22 points, troisième Champigny avec 21 points en deuxième division en poule A. Victoire de Montbron chez la réserve de Charente-Limousine, match nul entre La Roche-Rivière et Verdy, victoire de Bel Air contre Saint-Aniex, défaite de Mornac à domicile contre Chasseneuil 3-0, victoire de Ruffec à Aigre 1-0 et victoire de Sireuil à Mansle 1-0. Au classement, Sireuil reste en tête avec 29 points, deuxième Chasseneuil 21 points, troisième Mornac 19 points. On va passer à la poule B avec la victoire de Grande Champagne contre Ruel 2-1, la victoire de Linard à Chazelle 2-1, la victoire de Montmoreau contre Saint-Brice 2-0, la victoire de Saint-Séverin-Palluau contre Champigny 5-3, la victoire de Nersac contre Châteauneuf 4-1 et la victoire de Jarnac 2-1 contre Sud-Charente. Au classement, premier Grande Champagne 27 points, deuxième Linard 25 points, troisième Jarnac 24 points et quatrième Saint-Séverin-Palluau avec 23 points. On va parler de foot féminin avec la Coupe de France. C'était les huitièmes de finale. C'était hier au stade Léo Lagrange, la SG Soyaux qui recevait Reims. Et malgré la bonne prestation des filles de Michel Bradaya, c'est Reims qui s'impose 2-0. Un but de Rachel Corboz juste avant la mi-temps, une superbe frappe pleine lucarne, et un but de Kessia Bussi en fin de rencontre. Soyaux a malheureusement eu un pénalty par Laura Bourgoin, un pénalty stoppé par la gardienne polonaise de Reims. Forcément un résultat décevant, mais des bonnes choses à retenir en termes de jeu. J'étais avec Michel Bradaya à la fin du match, on l'écoute tout de suite.
Bon Michel, malheureusement élimination de l'AJ contre Reims 2-0, un match que vous n'avez pas démérité. Malheureusement pour vous, Reims marque au pire des moments, juste avant la mi-temps.
Complètement, c'est une frappe, c'est bien frappé de leur part, hein. On n'est pas porteur de balle. C'est vrai qu'on a été un peu plus en difficulté en première mi-temps sur le placement. On a travaillé ça et puis on a bien rectifié en cette mi-temps. C'est dommage qu'on prenne ce but juste avant la mi-temps. Après on revient dans le contenu, il y a une amélioration, il faut qu'on soit percutant devant, c'est mieux. Mais bon voilà, il y a pénalty, on ne marque pas. Il y a un poteau, on ne marque pas. Il y a une autre tête, il y a un cafouillage, on ne marque pas. C'est pas pour nous en ce moment. Donc je dis au fil, de manière, ça va payer. Maintenant, il ne faut pas prendre de retard, je l'ai dit plein de fois. Le contenu aujourd'hui, comme vous dites, ça peut faire à un moment donné, je pense que elles sont dit sur le pénalty, elles commencent à trembler, on le voyait bien. Donc c'est plus le même match qu'en championnat, c'est la coupe. Là, c'est dommage parce qu'elle passe quand même de justesse malgré tout. Et puis nous on passera. Donc nous on prépare le championnat parce que c'est la priorité du club. Donc voilà, moi je suis déçu pour les filles parce que je pense que sur ce match-là, on méritait au moins d'aller.
Oui, les efforts n'ont pas forcément été récompensés.
Pas été récompensés, puis c'est football, hein, vous savez, il y a des moments. Voilà, donc c'est dommage parce que là on a montré qu'on était à Soyaux et que pour venir gagner ici, les prochaines équipes, ça va être très compliqué. Parce que voilà, l'équipe commence à prendre forme. Les joueurs sont concernés, concentrés. Donc, je suis sur le contenu, je suis content quand même. Sur le contenu, après, c'est la réussite.
Oui, parce que malgré le fait qu'il y ait une défaite à élimination, le contenu est intéressant et ça vous permet de construire sur quelque chose de consistant.
Oui, bien sûr. J'ai eu la blessure de Binta qui a quitté à droite, qui ne m'a pas arrangé. J'ai dû encore une fois arranger sur les côtés. Voilà, mais les filles répondent présent. Donc, oui, le terrain, on a bien vu que ça a changé parce que j'ai toujours voulu faire comme ça. Avec. Devant, c'est beaucoup plus consistant aussi, donc voilà, c'est intéressant pour la suite.
Et puis il y a ce match de Rodez qui n'a finalement pas été joué. En quoi il est perturbant ce match reporté dans votre préparation de saison?
Non, il n'est pas perturbant, au contraire. Comme on mettait des choses en place, ça nous laisse du temps pour mettre des choses encore plus en place, on va dire. Donc voilà, nous on est prêts, on sait la ligne droite qu'on a, donc on sait très bien que ça va être compliqué, mais on va y arriver.
Voilà, donc forcément déçu du résultat, Michel Bradaya, mais satisfait quand même de la production de ses filles qui recevront le week-end prochain Fleury. Et puis il y a toujours ce match en retard à Rodez qui sera hyper important, que la Gisoyo disputera début février. Donc on suivra les aventures des Sogeldiciennes. En rugby, on rappelle le résultat du SA15 avec la victoire de Colomiers 25-21. Malheureusement, une victoire acquise sur le gong qui ne fait pas les affaires du SA15. En national, lourde défaite à domicile de l'UCS malheureusement contre Chambéry, victoire des Chambériens de Théo Velten 46-3. En fédéral 1, l'UBJ était proche de l'exploit en recevant le leader Langon. Eh bien l'UBJ s'est incliné seulement 2 points, victoire de Langon 24-22 sur un essai pénalité à 10 minutes de la fin. Triste pour les Barbeziliens, mais qui restent quand même dans la course au maintien, donc on espère que ça va le faire pour eux dans les prochaines semaines. En basketball, malheureusement défaite du LCB. Le LCB qui recevait la réserve du Poinçonné, défaite des filles d'Alex Saquet 65-60. Malheureusement, le LCB est 10e au classement avec 4 victoires et 10 défaites. C'est une victoire de moins que Chantonné et c'est 2 victoires de moins que ce match Vendée, Les Herbiers et Rillé. Donc il va y falloir gagner quelques matchs, notamment contre les concurrents directs dans la suite du championnat. En revanche, en pré-national, la CTC Grand Cognac recevait Tulle. Un match qui a réuni 1200 personnes au Vosel et une belle victoire de la CTC Grand Cognac contre Tulle, 67-62. Dans ce championnat hyper serré où il y avait 4 leaders à égalité de points avant cette journée, eh bien Cognac fait la bonne affaire puisque Cognac est en tête avec Étré et avec la réserve du CSP Limoges. Limoges ASPTT et Tulle ont désormais une victoire de retard sur ces 3 équipes. Donc Grand Cognac est en forme et sur la prochaine journée, pour les Cognacés, ce sera un déplacement du côté de Poitiers. Poitiers qui est avant-dernier avec seulement 2 victoires en 14 journées. Donc on peut espérer une nouvelle victoire de la part de la CTC Grand Cognac. On va parler de judo maintenant avec les championnats de Nouvelle-Aquitaine par équipe junior, un garçon et fille avec un doublé pour la couronne Grand Angoulême Judo. La couronne Grand Angoulême Judo qui s'impose chez les garçons et chez les filles. Donc victoire donc en championnat de Nouvelle-Aquitaine qui permet à ces deux équipes de se qualifier pour le championnat de France. On rappellera que l'équipe cadette est directement qualifiée pour les championnats de France, hein, car médaillée la saison dernière en 2022, on se rappelle de cette super médaille ramenée par cette super médaille de bronze ramenée par les couronnés. C'était il me semble au mois de mai ou au mois de juin. Et donc on espère, on suivra les couronnés et puis on espère que ça va le faire lors des prochains combats. On salue forcément notamment Bertrand Gamay-Curtin qui a encadré ses jeunes toute la journée. Et puis on va terminer par de la course avec les quarts de finale de cross qui avaient lieu ce week-end organisé par les G2A. C'était du côté de Ruelle hein, sur la piste de Puy-Gulien. Et ça a été une moisson charentaise à Ruelle hein, puisque les Charentais ont ramené 13 médailles individuelles, un bon cru. 13 médailles, 3 médailles d'or, 3 titres pour Da Silva, Avigno et Lemoigne. Comme le titré la Charentaise aujourd'hui, c'est historique au 21e siècle. Donc on attend de voir la suite du programme. Donc ce sera les demi-finales des championnats de France de cross. Donc il me semble que du coup toute la Nouvelle-Aquitaine sera réunie. Et donc on suivra les aventures eh bien de nos crossmen. On va terminer par le trail hivernal de la Grande Champagne. Donc un joli cru hein, pour ce trail puisque 380 coureurs étaient réunis à Bouteville samedi soir. A souligner la victoire féminine de Laura Bardet qui termine 5e au scratch sur le 8 km. Une course voilà remportée par Aymeric Fidel. Un très bel événement. On sait que les trails ça marche en Charente, la preuve avec ce trail hivernal de la Grande Champagne. Nous on se retrouve tout de suite dans Culture Sport avec Laurent Cardona qui est l'invité du soir. On va évoquer avec lui forcément le rugby, le VSA15 et puis son aventure au sein de l'IBB où il est consultant au niveau de l'arbitrage. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée à tous, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Attitude sur 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Nous allons ensemble voyager dans le temps avec Laurent Cardona qui est notre invité aujourd'hui. Laurent, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben avec grand plaisir. Voyager dans le temps, Didier, tu me vieillis, attention.
Non, mais tu resteras éternellement jeune. Quand je disais voyager dans le temps, c'est pour faire référence à ton ancienne passion qui était celle de l'arbitrage.
Oui.
On en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, Laurent, j'aimerais que tu nous fasses un rapide retour sur ta création d'entreprise qui nous avait beaucoup impressionné ces derniers temps.
Alors, on est sur le complément alimentaire, nutrition alimentaire, les magasins JL Bro Nutrition, que j'ai créé avec Jonathan, mon petit frère. JL, donc forcément Jonathan Laurent Bro de Brother pour les initiés, nutrition, c'est assez simple. Donc, on vend des compléments alimentaires, la nutrition sportive et de l'accessoire musculation notamment et ce qu'on appelle home gym, dans nos 3 magasins, celui d'Angoulême, Bègle, la banlieue bordelaise, et Mérignac, la banlieue bordelaise aussi, et le site web qui est tout simplement www.jlbronutrition.com.
Comment t'es venu l'idée de te positionner sur ce créneau-là, Laurent?
Bon, la base de l'idée est venue de mon petit frère qui est passé directeur de salle de sport pendant une dizaine d'années, un peu plus même. Moi qui consomme du complément alimentaire depuis de nombreuses années dû à la pratique sportive en haute intensité en rapport à l'arbitrage. Et du coup, pendant le confinement, le tout premier confinement 2020, Jonathan, mon frère et moi, on voulait à tout prix créer quelque chose ensemble et après, quand on sera plus de ce monde, laisser quelque chose. Et donc voilà, parce qu'on a une histoire un petit peu, je vais pas la répéter là, mais on a une histoire familiale un petit peu particulière avec la perte de notre père, mère et grand frère en l'espace de 5 ans. Donc il reste plus que Jonathan et moi. Et donc voilà, vraiment une entreprise familiale et on a décidé d'ouvrir ce créneau de compléments alimentaires parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de magasin comme le nôtre, de magasin spécialisé dans le complément alimentaire. Il y avait quelques boutiques qui faisaient un peu de compléments mais rien d'organisé. Et voilà, et notre but c'est de créer un concept qui est déjà créé sur 3 magasins et de s'étendre. Pour l'instant tous les magasins nous appartiennent, hein. On me pose souvent une question savoir si c'est une franchise. Non, ce n'est pas une franchise de la bonne nutrition, pas encore, ça pourra le devenir si on a des candidats sérieux qui correspondent à l'esprit familial de Gilles Nutrition.
Est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture de magasins, Laurent?
Alors, on est en train de regarder pour ouvrir Poitiers, qui sera D'accord. probablement notre prochaine destination, et La Rochelle. C'est les 2 prochains magasins qui vont voir le jour, je l'espère, sur 2023.
Parfait. Christian Dédé, une question?
Non, mais c'est vrai que pour moi, un complément... Ce que tu veux, au final, pour moi, ça rime avec un peu récupération après l'activité. C'est dans ce but-là, j'imagine.
On peut. Ça fait partie effectivement du créneau des compléments alimentaires que l'on vend, dans la récupération, dans le complément pendant l'effort, tout ce qui va être pour nos triathlètes, coureurs, cyclistes, toutes ces barres énergétiques, voilà, toute une gamme complète issue de produits français pour la plupart et de produits avant effort, hein, parce qu'on peut aussi on est entre l'après-effort et l'avant-effort, voilà, vraiment toute la gamme du sportif complet, amateur, hein, modéré, enfin, intermédiaire ou professionnel.
Oui, puis j'imagine que le but, c'est bien sûr de vendre, mais c'est surtout de conseiller, parce que c'est vrai que le sport, eh bien, le sport se développe, il y a beaucoup de salles qui se développent, et puis les gens font du sport eux-mêmes. Ils vont courir ou ils font un peu de sport chez eux. Et ils sont pas forcément toujours spécialistes dans ce qu'il faudrait, donc c'est vrai que vendre, c'est bien, les conseiller, c'est encore mieux, j'imagine.
Tout à fait, ouais. Le concept est parti d'un constat. En France, depuis 10 ans, il y a entre plus 6% et plus 10% de licenciés sportifs. Donc, faut savoir qu'on est un pays de licenciés sportifs loin derrière nos amis européens, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On est en train de rattraper ce retard depuis 10 ans, et c'est cette courbe qui nous a fait, qui nous a motivé à ouvrir les magasins Gilles Pro Nutrition. Et tu viens de le dire très précisément, tous nos conseillers vendeurs, tous nos conseillers forme sont souvent des coachs diplômés. Qui sont agréés par l'État, donc voilà, donc c'est des gens spécialisés qu'on met à l'intérieur, et c'est parce que la micronutrition touche à la nutrition, ça veut dire touche à la santé. Et quand on touche à la santé, il faut savoir mieux s'y connaître et être diplômé, comme nos nutritionnistes diététiciens. 3 nutritionnistes diététiciens sont présents dans les magasins, un à Angoulême, un à Bègles et à Mérignac. Et là aussi, ce ne sont pas des coachs ou des c'est vraiment des diplômés avec des BTS ou des diplômes universitaires, donc des DU en nutrition sportive.
D'ailleurs, il y a beaucoup de salles ont ouvert, beaucoup de salles de sport ont ouvert en périphérie d'Angoulême. J'imagine que ça doit être la même chose à Bordeaux, multiplié par 5 ou par 10. Est-ce que vous avez des rapports avec ces salles, puisqu'au final, vous offrez une offre que j'ai envie de dire complémentaire un peu. Est-ce que vous avez des rapports avec toutes ces salles?
Ouais, on est transversal totalement avec les salles de sport, hein. Dans les salles de sport, on retrouve de la musculation, on retrouve des salles de cours, de cardio, du vélo, du tapis. On est en relation avec ces salles. On fonctionne très très bien avec eux parce qu'on crée de nombreux partenariats. Du coup, les licenciés de ces salles profitent des avantages d'un partenariat qu'on a avec ces salles, et on reproduit ce même schéma sur Bordeaux, effectivement, donc sur Angoulême et sur les deux magasins de Bordeaux.
Est-ce que votre secteur d'activité se tourne vers les clubs sportifs?
Oui, tout à fait.
Club de foot, de rugby, de...
Bien sûr, on a de nombreux partenariats, hein, avec les féminines de Soyaux, avec le hand d'Angoulême, avec le SA15, bien évidemment. Là, on est en train de rentrer en négociation avec le Stade Montois Rugby. On fournit aussi l'UBB Rugby. On fournit beaucoup de clubs amateurs, Barbezieux, bien évidemment, Saint-Médard-en-Jalles, c'est la banlieue girondine. Voilà, on a beaucoup de clubs amateurs aussi, puisque les joueurs, il y a des joueurs dans ces clubs qui sont quand même de sportifs de haut niveau et qui complètent leur alimentation grâce à Gilles Bon Nutrition.
Oui, je reviendrai moi sur la fabrication.
Oui.
On peut rentrer dans le détail de cette nutrition, s'il te plaît.
Oui, mais la fabrication, ce sont uniquement des produits européens. Créé par des usines très reconnues dans le monde de la diététique sportive, de la nutrition sportive. Donc c'est des marques qui ont plus de 30 ans d'existence, hein, qui sont agréées, parce que la question normale, hein, c'est normal qu'elle vienne sur la table, qui sont agréées antidopage. C'est très important pour nous parce qu'on peut parler de compléments alimentaires. On peut toujours faire un parallèle très facile, trop court, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, avec le dopage. Et donc, bien évidemment, nos produits sont tous garantis anti-dopage, puisque j'ai des joueurs professionnels qui les consomment. Donc, forcément, on est obligé d'avoir une traçabilité. Ils passent, ces produits-là qui sont fabriqués en Europe, passent les contrôles français et les normes françaises. Donc, les consommateurs sont protégés, par la fabrication, par les composants qui sont mis à l'intérieur et par la quantité des composants qui sont mis à l'intérieur.
C'est du Made in France, moi.
C'est du made in France, en tout cas c'est agréé, même si c'est fabriqué en Europe.
Et le sourcing, il se trouve où, Laurent, en Europe? Donc, c'est quoi, les pays de l'Est?
On peut avoir, alors, on a beaucoup d'Espagne, on a beaucoup de Belgique, on a beaucoup de France, puisqu'on a des produits qui sont fabriqués à Lyon, notamment. Ensuite, on a du hongrois. Alors, je vais citer une marque, désolé, pour la publicité gratuite, mais la marque Biotech, pour les gens qui vont nous écouter, doivent connaître. C'est une marque qui a plus de 30 ans d'existence. Et qui est très reconnu dans le monde de la nutrition sportive. Et voilà, c'est des marques de confiance fabriquées en Hongrie, mais avec des usines qualifiées et certifiées aux normes les plus strictes, aux normes françaises les plus strictes.
Tu parlais des contrôles antidopage. Je voudrais juste faire un petit zoom là-dessus. On sait que forcément que le dopage il avance, mais on sait aussi que les contrôles de dopage avancent également. Avec forcément un train de retard par rapport au doping.
Toujours. C'est le principe du voleur et du policier, ça.
Ben oui, complètement. Ouais. C'est compliqué de rattraper le retard. Mais est-ce que les normes évoluent? Est-ce qu'elles évoluent rapidement? Et quel regard tu as dessus?
Oui, elles évoluent très rapidement. Dès qu'il y a un souci rencontré ou quoi, elles évoluent très rapidement. Alors, nous, on n'est pas concernés parce que vraiment, les dosages dans nos produits sont bien en dessous des normes antidopage. Donc même si on avait du retard, nous le retard il est assez grand entre les normes qui existent et ce que les produits qu'on fournit. Donc on n'est pas très inquiet là-dessus. Donc pour nous c'est pas un problème.
J'aurais une petite une nouvelle question ce qui concerne notamment les. On va appeler agence ou établissement, Laurent.
C'est agence. Pour les magasins.
Oui.
Ah, c'est des magasins de nutrition sportive.
Il y a aujourd'hui combien de salariés et comment t'es venu à cette idée de, alors j'ai bien compris que c'était avec ton frère, mais toi venant du rugby, voilà, quelle a été ta démarche pour notamment soutenir ton frère et notamment rendre hommage à toute ta petite famille qui malheureusement ne sont plus là pour t'écouter.
Eh ben tout simplement, moi j'ai toujours considéré que créer un commerce, ça veut dire créer quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas où il y a un trou dans le marché pour le consommateur. Les produits qu'on vend aujourd'hui en magasin physique avec les conseils, je l'ai dit tout à l'heure, d'un professionnel qui vous conseille réellement sur ce que vous avez besoin par rapport à votre morphologie, par rapport à vos objectifs sportifs. Tous ces produits-là étaient achetés sur Internet notamment. Il y avait un gros marché sur Internet, mais forcément quand vous êtes devant une page web, vous n'avez pas le conseil, alors vous lisez ce qui est écrit, mais vous n'avez pas les conseils d'un professionnel, on n'écoute pas ce que vous avez à dire, puisqu'il n'y a personne qui vous écoute de toute façon sur une page Internet. Donc
ça d'ailleurs, c'est valable dans tous les secteurs.
C'est valable dans tous les secteurs. Sur le web, c'est très rare quand vous avez quelqu'un qui vous écoute sur une page web. Donc j'étais motivé par ça, parce qu'effectivement, il y avait vraiment un trou dans la raquette pour ce domaine d'activité-là. Et moi, en tant que consommateur, dans le monde du rugby, il y a beaucoup de consommateurs de compléments alimentaires. J'ai trouvé que c'était vraiment le créneau qui nous correspondait. Alors, mon frère a la partie métier. C'est vraiment chez nous le spécialiste. Il est capable de décrire toutes les étiquettes de tous les produits que nous avons en magasin. Il les connaît par cœur. Et moi, je vais être plutôt l'homme créateur d'entreprise, puisque j'ai quand même passé cette expérience. Grâce à mon passé professionnel, et donc je m'occupe de toute la partie ressources humaines, puisqu'on a posé la question des salariés tout à l'heure. Aujourd'hui, Zébro Nutrition, c'est 10 salariés entre les magasins et forcément l'administratif. Donc c'est pas rien, c'est une petite PME, hein, c'est une petite entreprise. Mais bon, on fait comme beaucoup, on commence tout petit et puis on espère que dans les années à venir, on grandisse.
Un commercial, Laurent.
J'ai des commerciaux mais qui sont présents en magasin. Et les managers de chaque magasin ont une mission commerciale, c'est-à-dire qu'ils, quand ils sont en doublon avec leur conseiller forme, donc leur second, ils prennent leur petite smart, vous avez peut-être vu sur Angoulême, une petite smart toute or écrit de sujet pour nutrition, et ils vont démarcher les clubs de sport, les salles de sport, voilà, ils ont ce rôle d'aller chercher le client et de ne pas faire que attendre en magasin que le client vienne.
Qui te permet évidemment de développer ton activité au sein de la nouvelle Aquitaine.
Tout à fait, exactement. Donc, alors, on a une zone de prospection qui est entre 20 et 30 kilomètres autour des magasins. On n'a pas prétention de s'étendre. Le stade Montant Rugby, j'en ai parlé tout à l'heure, est venu à JL Bro Nutrition parce qu'ils ont vu le camion à Langon. Quand Jonathan, mon petit frère, a joué avec Barbezieux à Langon, il avait le camion ce jour-là et le camion était garé à Langon et le commercial du Stade Montois Rugby était à Langon ce jour-là. Et donc, ils nous ont appelé parce qu'ils ont dit voilà, nous, le Stade Montois, aujourd'hui, On n'a pas de fournisseur officiel de compléments alimentaires et on a vu votre enseigne. On s'est renseigné sur le web. On a regardé ce qu'en disent les professionnels et vous êtes une marque quand même plutôt très bien placée et de confiance pour nos joueurs. Parce que c'est très important pour un joueur de consommer un produit où il est sûr et certain quand il sera contrôlé par les agences antidopage qu'il n'aura aucun problème.
On disait tout à l'heure, tu parlais du web, Laurent. Bien entendu, je pense que vous avez un site quand même.
Bien sûr. Oui, le site porte la marque, hein, jlbronutrition.com, tout simplement. Vraiment assez simple. Et là-dessus, vous retrouvez tous nos produits en vente avec des offres qui sont quand même plutôt intéressantes. On va prendre, par exemple, pour la première commande, on offre 20% aux consommateurs. C'est une belle remise pour sa première commande. C'est un petit cadeau de bienvenue qu'on aime bien faire. Et puis voilà, on a tout un tas d'opérations commerciales comme ça. On est rarement sans opérations commerciales sur site internet.
Ça représente combien par rapport à ton chiffre d'affaires, Laurent, le chiffre d'affaires sur la boutique en ligne?
La boutique en ligne aujourd'hui, c'est pas notre fer de lance. La boutique en ligne est en progression constante, donc le chiffre d'affaires évolue. On va être autour de 30 000 euros mensuels en chiffre d'affaires que sur le site web.
Ah ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien, mais c'est en constante progression. On tournait il y a 6 mois, à une dizaine de commandes à la semaine. Et ben 6 mois plus tard, on est à 10 commandes la journée. Donc
ouais, donc
il y a une réelle évolution et ça va nous permettre d'investir, ça va nous permettre peut-être de changer de locaux parce qu'aujourd'hui le site web est logé dans le magasin d'Angoulême, c'est-à-dire qu'on a la partie réserve à l'arrière. La réserve du site web est là, le stock du site web est là, et forcément on va vite manquer de place, donc il va falloir qu'on évolue et qu'on prenne des locaux plus grands réservés au site web. Mais bon, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle aventure familiale, humaine, et donc on évolue et on est très content de ce qu'on fait.
Ce qui te permet évidemment de pouvoir, notamment dans les mois ou années à venir, de pouvoir développer sur Poitiers, sur La Rochelle, deux départements, l'un côté Vienne et de l'autre côté Charente-Maritime.
Tout à fait. Ah ouais, c'est des villes très sportives. Poitiers est une ville étudiante ultra sportive. Et La Rochelle, bien évidemment, je vais pas parler du stade Rochelet qui anime la ferveur de tous les Rochelais, mais pas que, d'ailleurs, de tous les Charentais, on va dire. Et il y a pas que le rugby à La Rochelle, hein. Il y a d'autres sports qui marchent très très bien.
Ouais, il y a le basket, notamment le hand.
Il y a le basket, tout à fait. Ouais. C'est une belle ville sportive dans laquelle on a hâte de s'installer. À Poitiers, on a hâte aussi, et après La Rochelle. Et puis après, on va continuer notre développement. Et pour la prochaine ville, après ces deux villes-là, ce sera Tours. Qui est visé, voilà. Et après Tours, on va commencer à descendre dans le sud-ouest, en prospectant sur Pau, Agen, Biarritz, etc.
Alors toi, il y avait des objectifs ou des projets sportifs, et toi, c'est le projet aujourd'hui professionnel, mais dans la vie active.
Ouais, le fait est de ne plus avoir l'occupation qui me prenait quand même la moitié de mon temps de travail. Par l'arbitrage. Alors bien évidemment, j'ai encore la partie UBB et puis peut-être SA15, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais ça me prend quand même moins de temps que ce que me prenait l'arbitrage. Donc ça me laisse plus de temps libre pour mes activités professionnelles et le développement de la marque JL Bro Nutrition. Donc ça, c'est plutôt le côté agréable parce que mon frère a assumé jusqu'à présent pas mal de choses. J'étais présent, mais pas assez, je le savais. Et voilà, finalement, la fin de ma carrière a bien coïncidé avec le développement de Gilbro Nutrition. Donc ça, c'est vraiment bien.
Est-ce que tu as gardé toujours ces relations que tu avais en tant qu'arbitre et en tant que club, qui t'a peut-être permis aussi de pouvoir développer ton activité professionnelle avec ton frère?
Ouais, tout à fait. J'ai une très bonne relation. Alors, moi, j'estime que pour l'instant, on est encore une petite enseigne. Pour s'adresser à des gros clubs de top 14, il faut, je pense, être équipé un peu plus large que ce qu'on est aujourd'hui. Même si 3 magasins et un site web, certains pourraient dire, c'est déjà pas mal au vu des chiffres d'affaires, parce que sans rien dévoiler, on est à peu près à 500 000 euros par magasin à l'année. Donc,
c'est bien.
C'est pas des tout petits magasins. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, ceux qui font un peu de commerce, c'est le chiffre d'affaires, oui, la rentabilité, c'est laquelle, etc., etc., etc. Voilà, donc on a fait beaucoup d'investissements au début, hein, beaucoup de travaux d'agencement, puisque tous les magasins se ressemblent, ont la même identité graphique. Donc quand vous rentrez à Bègles, à Mérignac ou à Angoulême, vous avez la sensation d'être chez JL Bro Nutrition sans même regarder l'enseigne. C'est là, on copie un peu le grand principe des enseignes. Des grandes enseignes qui ont fait leur marché depuis plus d'une cinquantaine d'années, quoi.
Alors, ça permet au client finalement de pas être déboussolé quand il arrive dans un nouveau magasin.
Exactement. Tout à fait. C'est très bien dit. La gamme protéines, la gamme acides aminés, la gamme récupération, la gamme flocons d'avoine est placée de la même façon dans le magasin. Donc quand on rentre dans un magasin Gelbro Nutrition, n'importe lequel, ben on se repère assez vite, sans même lire les écritures et sans même avoir regardé le panneau d'entrée. Quoi.
Pour reparler des compléments alimentaires, est-ce qu'on peut faire un petit historique de quand c'est apparu? J'imagine que c'est forcément en relation avec la professionnalisation du sport, notamment du rugby hein, dans le milieu des années 90.
Ouais. Fait, en France, dans le complément alimentaire, on est très très en retard dans la consommation du complément alimentaire, bien loin par rapport à nos amis européens. Je parlais de l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, un peu comme la Belgique, comme je dis tout à l'heure. Donc, le complément alimentaire, c'est très, très vieux, mais pas assez bien contrôlé. Ça faisait très peur il y a plus d'une vingtaine d'années, quand on a parlé de dopage en cyclisme, etc., etc. Et il y a eu un amalgame de faits. Donc, il y a eu un ralentissement français, qui s'est fait il y a plus d'une vingtaine d'années. Et là, maintenant, le complément alimentaire, c'est rentré dans les mœurs. C'est quelqu'un qui fait du sport, même débutant va rapidement avoir besoin de compléments puisque sa nutrition normale, son alimentation normale ne va pas lui suffire pour travailler, bien dormir, s'occuper de sa famille et en même temps faire du sport. Ça peut être du foot, du rugby, de la musculation et autres. Donc voilà, donc le complément alimentaire est rentré aujourd'hui dans les mœurs et fait tout à fait partie de l'alimentation classique. Ou de la supplémentation, il y en a certains qui lui donnent ce terme-là.
Mais est-ce qu'on peut consommer des compléments alimentaires si on n'est pas sportif, si on ne fait pas de sport?
Bien sûr, nous on a tout un tas de clients qui sont là aussi, parce qu'on a des aides à la perte de poids par exemple, pour qui vont être des brûleurs de graisse, qui vont être des choses comme ça. On a des gens qui viennent nous voir et qui ne font pas de sport parce que par exemple j'ai certains qui ont des déficits protéinés. Tout simplement parce que leur métabolisme mange énormément de calories dans la journée. Il y a des métabolismes comme ça qui mangent énormément de calories et d'autres au contraire qui n'en mangent pas beaucoup. Donc il y a ceux qui prennent du poids juste en regardant un gâteau au chocolat et ceux qui mangent le gâteau au chocolat en entier et qui prennent pas un gramme. Voilà, c'est des métabolismes différents et donc bien sûr il y a des gens qui viennent nous voir juste pour arriver à rééquilibrer leur poids dans un sens ou dans un autre. On a beaucoup aussi, pour compléter ce que ma réponse, on a beaucoup une clientèle de personnes d'un certain âge, on va dire. Je vais pas parler de personnes âgées, je vais parler d'un certain âge, qui viennent parce que c'est des grands marcheurs. Les gens d'un certain âge aiment beaucoup marcher pour faire travailler leurs articulations, travailler leur flux sanguin. Et ils viennent se restaurer chez nous par des barres glucidiques avec des flocons d'avoine qui leur permet de recharger parce que quand on fait une heure et demie, deux heures de marche, ben forcément, on a besoin de petites choses dans le sac à dos, pas très lourdes. Mais qui peuvent rapidement recharger le métabolisme pour pouvoir tenir la cadence.
J'ai un peu l'image un peu comme les médicaments, c'est-à-dire que c'est pas forcément très bon, mais c'est bon pour la santé, donc on le prend. Est-ce que du coup, l'évolution des compléments alimentaires, c'est un peu comme, par exemple, comme un sirop avec des goûts. Enfin, est-ce qu'au final, on allie le plaisir de le consommer avec la nécessité de le faire?
Alors, la remarque est très pertinente parce qu'effectivement, le complément alimentaire a eu un gros travail à faire là-dessus. À un moment donné, moi ça fait une quinzaine d'années que je consomme des compléments alimentaires. C'était pas bon, il y a plus de 15 ans. Le goût vanille, le goût fraise, donnait un goût très chimique, c'était vraiment des édulcorants à l'intérieur. Et il y a eu un gros travail sur ce sujet-là pour rendre le complément alimentaire, je vais parler de la protéine, d'un meilleur goût et qui ressemble plus à un vrai milkshake, plutôt qu'à une poudre mélangée à l'eau, quoi. Donc, il y a eu un vrai travail pour rendre appréciable et même des fois goûteux parce que aujourd'hui je vais prendre une protéine qu'on a qui est à la fleur de lait. On dit c'est quoi la fleur de lait? Ben quand on aime le lait comme moi, hein, j'ai 45 ans mais j'aime quand même le lait. Ça va donner un petit goût, ce petit goût, vous savez, le lait concentré qu'on mangeait dans nos tubes là, avec nos tubes de lait concentré. Et ben voilà, la fleur de lait, ça a ce petit goût là et c'est vraiment c'est en plus gourmand, quoi.
Oui, histoire de joindre l'utile à la...
Exactement. C'est très important parce que beaucoup de gens sont prêts à consommer du complément alimentaire, à faire des efforts quand ils font du sport de haut niveau. Je vais parler du crossfit, qui est un sport nouveau aussi en France, le crossfit, qui mange énormément de calories. Quand on fait une séance de crossfit, pour ceux qui en font, ils savent qu'ils sont systématiquement rasés au niveau de l'énergie. Et bah voilà, il y en a beaucoup qui veulent faire des efforts. Mais en plus, si on fait des efforts et que c'est bon, tous les voyants sont ouverts. Ouais.
C'est le principe de faire quelque chose par nécessité. On le fait une fois, deux fois, trois
exactement.
Fois, on est vraiment motivé. Alors que si on le fait par plaisir, eh bien...
Bien sûr, je vais parler de régime. Alors, on parle plus de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. Mais s'il y a pas de plaisir, alors bien évidemment qu'il faut réduire le calories qu'on mange. Pour perdre du poids, il faut réduire en moins les calories qu'on mange. Mais on peut faire ça. Il y a des diététiciens très très forts. Ils sont capables de faire ça en rendant ça agréable. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est vraiment pas rien. On n'est pas du tout sur un régime. Aujourd'hui, rééquilibrage alimentaire, c'est pas du tout de la restriction. C'est être capable de manger et savoir ce qu'on mange et quand est-ce qu'on le mange. Voilà. Ça, c'est un rééquilibrage alimentaire.
Mais d'ailleurs, on parle aussi de sport santé, c'est-à-dire les médecins qui prescrivent des séances de sport ou bien d'aller voir des clubs qui sont certifiés. Est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent potentiellement prescrire des compléments alimentaires pour dans une ordonnance ou pour
alors
pour
non parce que prescrire un médicament ça reste du médicamenteux. Nous, on n'a pas besoin de cet agrément-là ou d'une ordonnance médicale pour pouvoir vendre nos produits. On a aucun souci là-dessus. Par contre, nos diététiciens nutritionnistes, alors vous allez me dire, oui, c'est facile, Laurent, ils sont dans ton magasin, évidemment qu'ils vendent du complément alimentaire, mais certains diététiciens sont en dehors de nos magasins et conseillent à leurs clients, pour prendre du poids, pour perdre du poids, de venir dans les magasins Gelbro Nutrition pour les aider dans ce programme diététique qu'ils peuvent avoir.
On va parler de rugby maintenant ?
Avec grand plaisir.
Bon, on va forcément parler d'actualité avec ta nomination dans le staff du SA15, avec pour mission d'aider justement le SA15 au niveau de l'arbitrage. Le SA15 qui est l'équipe la plus sanctionnée, il me semble, en carton, en Pro D2, peut-être aussi en nombre de fautes. Bon, j'imagine que le SA15, tu l'avais pas forcément complètement quitté, mais quel regard extérieur tu avais sur le début de saison des Violets avant ton arrivée officielle?
Alors, avec toutes mes activités professionnelles, rugbystiques, avec l'UBB qui prend énormément de temps, j'avais décroché un peu du SA15. Je regardais les matchs parce que c'est quand même le club de ma ville. Donc je regardais les matchs, mais j'avais plus cette interaction avec le sportif que j'ai eu quand à l'époque de Julien Lahire. D'ailleurs, quand l'ère Julien Lahire s'est arrêtée, j'étais pas très dans l'entente avec le staff qui l'a remplacé. Et j'ai préféré prendre du recul sur le sportif. Donc je venais en tant qu'amoureux du rugby, amoureux du club de ma ville, hein, tout simplement. Et effectivement, j'ai vu ce club se dégrader nettement, faut être tout à fait honnête, hein, alors qu'il était quand même aux portes de la qualification. Je vous rappelle à tous, il y a 4 ans maintenant, il était aux portes de la qualification. Donc ça, c'est un gros regret, parce que je pense qu'aujourd'hui, si ce club avait continué la marche en avant qu'il avait entamée, serait aujourd'hui un club qualifiable.
C'est un regret d'ailleurs que la saison ne soit pas terminée avec le Covid, parce que c'est cette saison-là où le SA15 est vraiment à la lutte pour les places de play-off.
Ouais, parce que le SA15 était sur la lancée de ce qui s'était fait jusqu'à présent. C'est pas le nouveau staff qui inculquait cette progression. Ouais, ouais. Faut le savoir, faut être transparent, faut pas se cacher. C'est pas le nouveau staff qui a remplacé le staff de Julien Lahire qui était dans cette progression.
Et puis justement, malheureusement, quand on est stabilisé en Pro D2 et qu'on descend en National, c'est un peu comme, je sais pas, comme le FC Nantes au football. On met un an à détruire ce qu'on a mis presque 10 ans à construire. C'est un peu plus facile de descendre que de remonter au final.
Ah la construction est beaucoup plus longue que la déconstruction. Ça, c'est sûr et certain. Démolir quelque chose, c'est très facile. Le construire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'étais triste pour ce club. Pour être tout à fait transparent, j'étais triste pour ce club. J'avais mal au cœur pour. Parce que je pense aux deux présidents, Didier et Jean-Jacques Pichot, qui donnent énormément de leur temps, de leur, je vais dire, de leur santé, parce que ça crée beaucoup de soucis d'avoir un club de rugby de haut niveau. J'ai beaucoup très mal au cœur pour eux, pour tous les salariés du SA15, pour tous les bénévoles du SA15, ceux qui vivent pour ce club, pour tous les supporters, bien évidemment. Un club sans supporters ne vit pas. Donc j'avais mal au cœur pour ça. Je n'ai plus que subir, hein, comme tout le monde, comme tous les Angoumoisins, subir cette dégringolade. Et puis le nouveau projet avec Vincent Etcheto.
Vincent Etcheto, tu le connaissais d'avant? Est-ce que tu l'avais déjà croisé sur le terrain de rugby?
Bien sûr. Bah Vincent, tout le monde le connaît, tout le monde le voit faire. C'est quelqu'un qui est un passionné et forcément en tant que passionné, on en est arrivé à s'accrocher. Moi arbitre, lui entraîneur. On a quelques histoires sympathiques qu'on se raconte quand je viens au club. Si je dis le ballon magique, je sais qu'il y a que lui qui, s'il écoute cette émission, il y a que lui qui rigolera quand je dis ça. Il y a ce nouveau projet avec Vincent et il faut reconstruire. Et reconstruire, c'est pas simple. Il a pris le club qui était en train de se casser la gueule et ça a été dur pour lui. Il a pas pu éviter cette descente. Il est descendu, il a fait du bon travail en National 1 et puis il a réussi à faire remonter le club. Et puis c'est dur, hein. C'est dur à reconstruire, c'est tout, tout est dur, quoi. Donc tout naturellement, quand le club par Antoine Roger, le directeur général, m'a appelé pour me demander un coup de main, quoi. Un coup de main sur cette discipline qui fait défaut à ces joueurs ultra volontaires, parce que moi je suis avec eux depuis 3 semaines maintenant et je vois des mecs qui ont envie, quoi. Je vois des mecs qui lâchent rien. Je vois des mecs qui sont avant-derniers de Pro D2 et qui y croient dur comme fer, qui y croient vendredi là. Qui croient ce qui va se passer dans tous les autres matchs. Ça va être difficile, ils le savent, tout le monde le sait. Mais ils y croient et ça, c'est plaisant. Et quand je les ai rencontrés la première fois et que j'ai senti cette envie, j'ai dit ouais. J'ai dit à Antoine Roger, j'ai dit ouais, je vais tenter. Alors je suis pas le Messie, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Je travaille avec le staff, avec Vincent, avec Tanguy, avec l'ensemble du staff, pour pouvoir gommer ces erreurs, ces horreurs souvent inutiles, parce que quand on prend 15, 16, 20 pénalités dans un match, il y a la moitié des pénalités qui sont facilement gommables. Mais tout ça, il faut redonner de la confiance aux joueurs, il faut leur donner de la confiance, il faut leur dire qu'ils sont bons, parce qu'ils sont bons en plus. Donc on travaille beaucoup et on espère que ça va payer très rapidement, même si j'aurais aimé que ça paye déjà des rouans. Donc on verra ce que ça donne sur les matchs qui arrivent.
Comment tu peux expliquer, Laurent, que le club du S15 soit aussi souvent pénalisé? Est-ce qu'il y a des racines profondes à ça? Ou est-ce que c'est simplement une méconnaissance des règles qui fait que, à un moment donné, en toute bonne foi, tu te mets hors jeu?
Il y a les deux facteurs. Il y a le facteur de l'équipe qui subit, qui a subi à un moment donné. Forcément, quand une équipe subit, elle commet plus de fautes qu'une équipe qui ne subit pas. Ça, c'est normal, on va dire, c'est le standard. Après, il y a la méconnaissance et il y a la filouterie aussi, parce que bien connaître la règle, c'est être filou avec la règle. Ça, c'est important, hein. Faut être filou avec la règle. Quand je leur donne des conseils, je leur donne pas que la règle. Je leur apprends aussi comment la contourner intelligemment et comment jouer avec l'arbitre, comment jouer avec le corps arbitral en se faisant prendre au minimum, quoi.
Les arbitres, d'ailleurs, ils aiment bien les joueurs filous ou pas?
Ah, ils aiment bien, c'est un jeu. Entre les joueurs filous et... C'est un jeu du policier et du voleur, quoi.
Il y a beaucoup de fautes, hein, parce que depuis le début de saison, ce qui pénalise le S15, c'est les fautes. Et d'autre part, c'est vrai qu'ils ont un jeu quand même qui demande beaucoup plus au niveau résultat. Qu'ils ont obtenu cette année. Mais bon, disons aussi que cette saison-là, elle est pas terminée. Et moi, je vois évidemment sur le site du SR15 quelques commentaires. Là, ça me rend malade parce que je me dis, les gens, ils les condamnent au bout de 3 ou 4 défaites et ils sont vite condamnés. Alors que c'est bien le contraire. Ils sont tous conscients. C'est ce que tu disais, Laurent. Ils sont conscients de le plus dur qui reste à venir, parce que là, c'est vrai que maintenant, il va falloir gagner. Enfin, mais ils sont conscients de tout ça. Et c'est vrai que les fautes, je pense qu'avec ta venue au niveau du SR15, ces fautes-là, peut-être qu'ils vont prendre conscience aussi. Parce que il y a la tristesse, il y a le fait des résultats qui ne sont pas là, donc on s'énerve.
Ils ont usé de malchance aussi, hein. Faut être tout à fait transparent, hein. Il y a une saison, des fois, elle ne veut pas tourner pour toi, hein. Tu dois gagner probablement à Aurillac, à Grenoble. Tu dois gagner à Grenoble, en fait. C'est pas probablement. À Grenoble. Tu dois battre Aurillac. Il y a quelques matchs comme ça.
Tu dois ramener au moins un point de Mont-de-Marsan. Enfin, il y a beaucoup de
matchs. Tu dois ramener parce que tu fais une super rencontre à Mont-de-Marsan.
Tu dois ramener quelque chose tu dois battre Rio aussi à domicile, hein, où ils ont fait vraiment.
Tu dois battre Rio à domicile, tout à fait. Donc, très sincèrement, cette équipe, elle est pas loin du tout. Il faut juste que ça bascule. Et il faut que ça bascule rapidement. Ils le savent. Mais il faut que ça bascule.
De toute façon, le mois de février va être déterminant, parce que là, ils vont jouer tous leurs concurrents direct, que ce soit Carcassonne, Massy ou Montauban. Alors bon,
clairement, mais j'aurais aimé qu'à Rouen,
il restera beaucoup de journées après février, je pense, peut-être 8, mais je pense qu'on en saura beaucoup plus à ce moment-là.
Non, c'est maintenant, parce que le deuxième bloc est, le dernier bloc est difficile, parce que je crois que le S15 finit sa saison à Oyonnax. Aller chercher une victoire à Oyonnax pour sauver sa saison, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Faut compter, c'est maintenant, là. C'est maintenant. Faut pas se tromper. C'est maintenant. Il faut à tout prix le faire dès maintenant. Et encore une fois, je reparle de Rouen, parce qu'à Rouen, ils ont fait une excellente première mi-temps. Une première mi-temps digne d'un club qui est dans la première partie de tableau de Pro D2. Peu de fautes, ils ont première mi-temps, 5 fautes en première mi-temps. Uniquement 5 fautes. Une équipe qui est habituée à faire 12, 15 fautes par match.
C'est combien d'ailleurs une, grosso modo, une moyenne de fautes par équipe en Pro D2, grosso modo, une moyenne. Alors, il y a bien sûr des équipes qui sont pénalisées et d'autres non, hein, mais grosso modo,
ouais,
si on pouvait faire une moyenne
de fautes. En Pro D2, je crois qu'on est à 12 et quelques, quoi.
D'accord.
On est à 12 et quelques, sachant que le standard, top 14 et international, c'est 10 fautes maximum.
Ouais, donc il faudrait passer, grosso modo, de 20 fautes ou plus à 10-12, grosso modo.
Ouais, voilà. Voilà. Mais la marge, encore une fois, quand j'analyse les fautes faites, c'est largement faisable, hein. Très facilement. Et largement faisable, juste en leur redonnant les clés du camion et en leur redonnant confiance sur certains points clés, quoi.
Est-ce que tu as senti des joueurs réceptifs, Laurent?
Énormément. Ils posent énormément de questions. Moi, bien évidemment, je leur ai fait une présentation, je leur ai montré les points clés qui à améliorer très rapidement, qui vont leur permettre de gagner des points très rapidement. Et après, on a tout un travail de fond à faire, hein. Bien évidemment, c'est pas en quelques semaines que ça se résout, mais on a tout un travail de fond à faire. Mais en tout cas, je les ai sentis pas soulagés, mais en tout cas très intéressés pour améliorer leur performance sportive. Et ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu énormément. Je pense au capitaine Gauthier Gibouin, mais à l'ensemble des joueurs. À l'ensemble des joueurs qui sont vraiment, on sent bien qu'ils veulent comprendre pourquoi ils font autant de fautes, le staff y compris. Et surtout, gommer ça. Parce que quand on regarde la moyenne du SA15 et quand on regarde les autres clubs, parce que j'ai créé un petit graphique très rapide où par match, il y a les fautes des adversaires et nos fautes à nous. Le SA15 est systématiquement au-dessus sur chaque match. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer en dessous de l'équipe adverse.
Ouais, et puis il y a les fautes, mais il y a aussi, et peut-être surtout les cartons, c'est vrai que quand on joue à 14 contre 15 pendant... s'il y a deux ou trois cartons jaunes pendant 10 à, ouais, à 20 minutes, voire même, ouais, des expulsions parfois en début de rencontre, c'est se mettre une balle dans le pied aussi à certains moments.
Ah ben c'est terrible, parce que laisser ses partenaires à 14, voire à 13... Oui. C'est terrible parce que les partenaires, ça les oblige à démultiplier leur énergie pour faire la même chose. Et après, quand vous avez besoin dans le money time, donc dans le 60-80, donc les 20 dernières minutes là où il faut gagner le match, ben cette énergie que vous avez dépensée, ben vous l'avez plus. Là, le corps est une mécanique, hein, et les batteries, quand elles sont vides pour tout le monde, quoi.
Ouais, on peut d'ailleurs y voir un lien que vous avez fait, tu penses, avec le fait que le SA15, bon, ils ont gagné à Massy à la dernière minute, tu me diras, mais c'est vrai que la plupart des rencontres où il y a des regrets au niveau des points, c'est le SA15 qui menait et qui s'est fait dépasser en fin de match.
Ouais, il y a probablement une relation de cause à effet, bien sûr. Tu peux pas prendre autant de pénalités, autant de cartons, en pensant que les collègues qui restent sur le terrain, vont compenser.
Un mot sur l'arbitrage, Laurent.
Une demi-finale, tu peux compenser parce que il y a l'objectif, c'est le match unique. J'ai vu des équipes gagner, moi, à 14, des finales de top 14. Je repense au Racing qui a battu Toulon, à Barcelone il y a quelques années.
Au final, on donne tout parce que derrière, on est en vacances.
Ben voilà, ça n'a rien à voir. Sur un championnat, c'est long. C'est trop long sur un championnat parce que les matchs s'enchaînent. Mais sur un match, oui, c'est faisable, mais pas sur un championnat, c'est pas possible.
Un mot sur l'arbitrage, Laurent. C'est Alexandre Ruiz, je crois, qui a mis la mode au pays en rejoignant Montpellier. Romain Poit, de mémoire, est avec Toulon, c'est ça?
C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Jérôme Garcès avec l'équipe de France, Maxime Chalon à Brive, tout à fait.
Qu'est-ce qui a créé ce mouvement? C'est les clubs qui ont été demandeurs ou c'est vous qui, à un moment donné, vous êtes dit, tiens, avec notre expérience, on pourrait peut-être apporter quelque chose?
Alors, nous, on n'a pas été demandeurs du tout. C'est vraiment les clubs qui se sont rapprochés des arbitres. Alors, je vais dire à la retraite, oui et non, parce que Alexandre n'était pas du tout à la retraite. Il avait encore 10 ans de carrière devant lui. Lui, c'est un choix personnel qu'il a fait de rejoindre Montpellier. Pour ma part, oui, c'est l'UBB qui est venu me voir. Pour Toulon, je sais aussi que c'est Toulon qui est venu voir... Romain Poit et Maxime Chalon, c'est la même chose pour Brive. Donc, ils sont venus nous solliciter pour rajouter une nouvelle corde à leur arc, dans le staff notamment, comme l'entraîneur de la mêlée, comme l'entraîneur de la touche, l'entraîneur de l'attaque. Ben voilà, chaque poste a sa spécificité. Et ben moi, Christophe Urios, quand il m'a présenté au groupe et au staff, il a marqué coach de la discipline. Et j'ai trouvé ce titre plutôt correspondant à mon job, quoi. Coach de la discipline, mais pas que. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'apprends aux joueurs savoir ce que prend l'arbitre, ce qu'il ne prend pas, comment on peut faire pour essayer de dialoguer avec lui, etc., etc., etc. Donc, ouais, coach de la discipline, c'est un bon résumé de mon travail.
Comment ça se passe d'ailleurs le lien entre les arbitres et les clubs en début de saison, notamment est-ce qu'il y a des rencontres arbitres pour peut-être présenter des nouvelles règles, quoi. Comment ça se passe?
Oui, bien sûr. Alors, avant Covid, ces réunions se faisaient en présentiel. Ce mot présentiel là qui existe depuis le Covid maintenant, ou distanciel, donc se faisait en présentiel à Toulouse généralement, puisque c'est un peu le centre névralgique du rugby français aujourd'hui, à part les clubs parisiens. Donc on est à Toulouse en réunion, et maintenant ça se fait en visio. Voilà, la présentation des nouvelles règles, comme on a eu au mois de juillet, la mi-juillet, on a eu la présentation des nouvelles règles, des adaptations des nouvelles règles, voilà, qui ont été faites. Il y en aura pas l'année prochaine parce que en pré-coupe du monde, il y a jamais de modification de règles, jamais. Donc sachez qu'au mois de juin, juillet, août de l'année prochaine, qui arrive là, vous n'entendrez pas parler de modification de règles ou d'ajustement de règles, ça c'est sûr. Donc voilà, oui, il y a des réunions qui se font, et moi qui était de l'autre côté jusqu'au mois de juin, j'ai une relation permanente avec les arbitres en activité qui arbitrent l'UBB. Et permanente avec le patron des arbitres, où j'échange énormément, parce que je sais ce qui manquait quand j'étais arbitre. Moi, ce qui me manquait, c'est que les clubs envoyaient des clips que quand ils étaient pas contents.
Oui,
Voilà, pour râler. Alors que moi, arbitre, j'avais besoin d'un vrai échange technique avec les clubs. Un vrai échange qui me partage des phases, même quand ils ont gagné, qui partage des phases avec moi et qui me donne leur point de vue. Quel est votre point de vue? Et voilà, et moi je vous donne mon point de vue d'arbitre. Bien évidemment, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je suis là pour, quand je suis arbitre, pour garder l'équilibre et l'équité entre les deux équipes. Et les équipes, elles sont là pour gagner ce match. Donc, elles veulent briser cette équité. Elles veulent gagner, donc elles veulent briser cette équité. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs, mais on fait quand même le même métier, ou le même sport en tout cas. Et donc, moi, des fois, je suis pas content envers mes collègues. Parce que j'estime que telle ou telle décision, mais je mets cette passion de côté et je garde ce lien avec mes collègues en échangeant systématiquement, gagné ou perdu, des clips avec eux, où on parle de technique à l'intérieur. Et je pense que je suis là plus pour les aider qu'autre chose, hein. En tout cas, les aider de ma petite, sans prétention, bien évidemment. Voilà, essayer de garder ce lien technique, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe dans un club. Alors que moi, je sais ce qui se passe du côté arbitre.
Comment tu t'organises dans la semaine, et combien de temps ça te prend? Tu les prends individuellement, collectif? Tu vas sur le terrain? Comment tu fais?
Alors, on va parler du SA15 d'abord. Parce que
oui, du SA15.
Le SA15, j'y suis que le lundi. J'y suis que le lundi, on va dire quasiment toute la journée. Et après, je visionne leur match. Donc, soit je peux me déplacer à Chanzy. Mais en tout cas, je vais pas à l'extérieur, c'est sûr, mais je vais sur Chanzy, et je vois le match en direct, et après je le décortique, le match, en termes de discipline, que je leur représente dans la réunion du lundi suivant. Mais je n'ai pas de relation avec les arbitres, je n'écris pas aux arbitres avant match, après match, je n'envoie pas de clip, j'ai pas cette relation, parce que ça prend énormément de temps dans ma semaine. Par contre, l'UBB, qui est mon activité principale dans le rugby aujourd'hui, je fais tout ce travail-là avec les joueurs, des entretiens individuels avec les joueurs, pour leur parler de discipline. Alors si c'est un problème de mêlée, soit je le fais tout seul, soit je prends Jean-Baptiste Poux avec moi, ou Jean-Baptiste Poux est demandeur pour qu'on explique à un joueur ce qu'il a comme attitude pour être pénalisé par l'arbitre. Il est pénalisé ou surpénalisé par les arbitres, et on essaye de corriger ça ensemble. Ou sinon, je vais voir les quand il y a des cartons jaunes. On a pris énormément de cartons jaunes à l'UBB. Vous voyez, même les clubs de top 14 prennent des cartons jaunes pendant la phase de Coupe d'Europe. Bon, bah, je vais pas vous cacher que ça a été en début de semaine, c'était un gros sujet chez nous, quoi. L'UBB, il était hors de question de laisser passer cette indiscipline qui n'est pas du tout dans les objectifs d'un club qui vise minimum le top 6, quoi.
Et ça te prend quand même du temps, l'UBB?
Énormément. Énormément, parce qu'on joue généralement le samedi. Je vais passer quasiment la moitié de mon dimanche à découper le match, parce que j'en ai besoin pour le début de semaine.
Bah oui.
Parce que quand j'arrive au club le mardi, la journée complète, je suis toute la journée le mardi au club. Quand j'arrive, faut que je sois prêt, quoi, avoir les joueurs, plus prêt pour la réunion collective avec le groupe. Je donne à Julien et le staff, je leur donne mon retour de discipline, on échange là-dessus, quels sont les points à corriger, quels joueurs on va voir en entretien individuel. Donc oui, ça me prend, la journée du mardi est très concentrée. Et après, il y a les déplacements. Alors les déplacements sont une source aussi d'interaction avec les joueurs, où là aussi je continue à échanger avec eux, mais plus dans la préparation du match qu'on va avoir. On est plus dans l'analyse de l'équipe adverse et qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à eux spécifiquement.
C'est-à-dire que tu visionnes quand même deux matchs, enfin deux équipes, parce que si vous...
Et bien sûr.
Il faut prendre quand même l'adversaire aussi.
Ah oui, oui, oui. C'est important de savoir ce que
tu
c'est.
Tu revisionnes donc la vidéo.
On revisionne la vidéo, alors là...
Oui, puis pour l'adversaire, j'imagine que c'est pas qu'un seul match que tu visionnes.
Ah ouais, tout à fait. Alors l'avantage, c'est que avec l'équipe analyse vidéo, à l'UBB, il y a quand même trois analyses vidéo.
Oui, il y a du travail de mâché déjà.
Voilà, il y a du travail de fond, de fait. Moi, je demande les clips de jeu au sol, les clips de plaquage, les fautes que font les équipes. Je reçois un petit clip, hop, j'ai tout à l'intérieur, quoi. Sinon, ça serait trop énergivore en termes de temps. Je pourrais pas du tout me permettre de faire tout ça, quoi. Ça serait pas possible.
T'as un regard sur le Stade Rochelet, non?
Non, je les suis de loin. Je sais juste que l'UBB les a battus chez eux. Oui. Donc, ça, c'était une petite satisfaction personnelle. De par l'UBB, j'ai absolument rien contre La Rochelle, bien au contraire, c'est un club que j'admire de sa progression, que j'arbitrais en Pro D2 il y a plusieurs années. Oui. Et quand je les vois là, ils en sont à la 70e match guichet fermé, je crois, un truc comme ça, il me semble, c'est ce que j'ai vu, un chiffre
c'est
totalement
ça, ouais, c'est
après
ça.
Ils ont un petit stade, hein. Attention, hein.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ils ont un petit stade, 15 000 places voilà, à Chaban, quand on fait guichet fermé, c'est 33 000 personnes. Mmh. Donc des fois j'ai envie de dire, faut comparer ce qui est comparable. Remplir Chaban, c'est moins facile que remplir le Stade Rochelet.
Il y a du manque à gagner alors du coup au Stade Rochelet.
Ben après, parce c'est une politique de leur part.
Remplir 25 000 ou 30 000.
Ouais, je crois que j'avais lu quelque part que c'était un choix stratégique de leur part.
Ouais.
De garder ce stade à 15 000. Même je crois qu'il y a des projets d'agrandissement, mais de pas augmenter la jauge.
Oui, puis c'est aussi garder leur histoire et leur identité.
Ouais, mais encore une fois, tu viens de le dire justement, je pense qu'il y a un manque à gagner. Quand on met 15 000, alors c'est sûr qu'on rend rare les places, donc on les vend plus cher. Donc 15 000 places au Stade Marcel de Flandre valent bien plus cher que 15 000 places à Chaban-Delmas.
Chaban-Delmas, ouais.
Ouais, tu vois, en termes de rentabilité, là, je vais parler d'entreprise, je suis désolé, on aime le sport, mais on parle quand même de rentabilité derrière, c'est les salaires à payer.
Ça va avec, hein.
Ça reste une entreprise, hein. Et donc, 15 000 places vendues à Marcel de Flandre valent bien plus cher que 15 000 places vendues au Stade Chaban, mais ça, c'est une équation mathématique et économique assez facile à faire.
Bordeaux est une vraie ville de rugby, Laurent, non?
Ah oui, elle est devenue une ville de rugby.
Oui, parce qu'elle
était une ville de foot.
C'était le foot.
Elle était une ville de foot il y a une quinzaine d'années. Mais là, le président Laurent Marty, là, je tire mon chapeau vraiment. C'est pas parce que c'est mon président aujourd'hui à l'UBB, mais je tire mon chapeau parce que il a fait de ce, il s'est accroché, il est arrivé là sur la pointe des pieds à l'UBB avec son petit club de Pro D2 à l'époque, je vous rappelle quand même. Et il lui a fait passer des étapes très importantes. Il l'a professionnalisé, il lui a donné une économie réelle, Il n'y a pas beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont rentables. Peu de clubs sont rentables d'ailleurs, parce que quand on voit tous les mécènes, Altrad, Lorenzetti, etc., sont des gens qui chaque année prennent de l'argent dans leur poche et mettent sur le club pour qu'ils puissent vivre. Donc faut jamais l'oublier. Des fois on crache sur ces gens-là et je suis un peu mal au cœur quand on fait ça, parce qu'on oublie que c'est eux qui font vivre notre rugby quand même. Hein. Et on a des clubs qui sont économiquement, le SA15, de par les présidents Didier et Jean-Jacques, est économiquement rentable. Alors, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de bénéfice pour les actionnaires. Il n'y a d'ailleurs aucun actionnaire qui touche de l'argent en fin d'année. Mais en tout cas, il ne perd pas d'argent et c'est déjà une belle perf dans le sport de haut niveau. Une belle perf économique. Et le président Laurent Marty, encore une fois, a fait d'un club de Pro D2 bas de tableau à un club de top 14 haut de tableau. Et ça, il faut tirer un grand coup de chapeau.
Bien sûr, il ne serait pas remonté en Pro D2 s'ils avaient eu des problèmes économiques.
Non, clairement. Et puis tu tiens pas sur la longueur. Clair. Et puis Laurent Marty n'est pas un mécène comme le sont Jacques Lorenzetti et Mohamed Altrad.
Mohamed Altrad, ouais.
Il n'est pas du tout un mécène. C'est un homme d'affaires. Les autres aussi sont des hommes d'affaires, mais lui a réussi à créer une économie viable pour son club. Et finalement, pour revenir à la question initiale, à faire de Bordeaux d'une ville foot, à la passer à une ville rugby. Oui. Puisqu'aujourd'hui, le Matmut Stadium, quand on va jouer contre La Rochelle, quand on va recevoir La Rochelle, sera beaucoup plus rempli que ce que le foot remplit ce stade-là.
D'accord. Oui, tout à fait. Au final, c'est deux trajectoires qui se sont inversées avec les
deux trajectoires. Et c'est dommage, parce que le foot bordelais a vécu de belles histoires, où a vu éclore les Dugarry, les Zidane, etc.
Ouais, donc, mais je pense que le moment clé, ça a été fin des années 2010. Bordeaux est champion de France, je crois, en 2008 ou en 2009, la dernière fois. Et après, sur la décennie 2010, il y a de plus en plus de déceptions, des mauvais classements en Ligue 1, et finalement, des problèmes d'argent, des rachats qui sont pas forcément hyper positifs non plus. Alors qu'au final, j'ai l'impression, alors moi je suis ça d'un œil extérieur, parce que je suis plus footeux que rugbyman, mais j'ai l'impression que l'UBB, ça a un peu suivi le modèle de La Rochelle, c'est-à-dire une équipe de Pro D2 qui monte en top 14, et qui arrive à s'y stabiliser.
Ouais, tout à fait. Et sachant que je reviens sur La Rochelle, La Rochelle a accepté pendant des années de monter, de descendre comme
oui,
ça.
Ils ont fait l'ascenseur pas mal de fois. Oui.
C'est créé quand même, au petit à petit, quoi. Le président Merlin a aussi créé une économie avec son directeur général Pierre Vénard de mémoire. On réussit à ces deux hommes forts du club à créer cette économie, monter ce club. Petit à petit, on peut comparer effectivement l'UBB, la trajectoire de l'UBB de La Rochelle de la même façon, sachant que La Rochelle aujourd'hui est titrée. Oui. Et ce qui manque à l'UBB cruellement.
C'est ce qu'aspire, je pense que c'est ce qu'aspire le club bordelais.
Oui, tout à fait. La progression est plus longue, mais on espère qu'elle sera encore plus pérenne. Parce qu'on dit souvent qu'un projet, quand il se crée dans la longueur comme ça, souvent il est beaucoup plus pérenne, mais on voit bien que le Stade Rochelais est aussi un club très pérenne et plus en avance que l'UBB.
D'ailleurs, par rapport à l'UBB, moi j'avais deux petites questions sur ce club. Comment tu as vécu le fait de retrouver Julien Dallaire à Bordeaux, toi qui l'avais connu au SA15, et puis comment tu as vécu justement l'éviction de Christophe Furiot durant la saison?
Alors pour la première question, moi Julien, c'est un mec qui pue le rugby. C'est un vrai manager. D'ailleurs, quand il s'est retrouvé second derrière Christophe Furiot en top 14, j'ai eu peur que son tempérament de manager coince. Mais c'est aussi un garçon intelligent qui a su s'adapter et qui a su saisir l'opportunité que Christophe Furiot lui donnait, l'intégrer dans son staff. Alors, faut savoir que les deux hommes ne se connaissaient pas. Hein. Christophe Furiot a juste misé sur le travail de Julien Layel fait au SA15. C'est comme ça qu'il l'a fait venir. Les deux hommes ne se connaissaient pas personnellement, contrairement à Frédéric Charrier et Christophe Furiot, où ils se connaissent personnellement. Ça veut dire que c'est une vraie reconnaissance du travail de Julien Layel. Et là, l'éviction de Christophe, Christophe, je le connaissais de quand j'étais arbitre, forcément des relations un peu tendues, mais c'est encore une fois comme avec Vincent, hein, l'entraîneur, l'arbitre, voilà, on n'a pas les mêmes objectifs, donc on va dans des directions opposées. Et par contre, j'ai appris à l'apprécier en tant que manager de haut niveau. Hein, on voit vite que c'est un manager de haut niveau pendant les 4 mois qu'on a travaillé ensemble. Et du coup, j'ai un peu subi son éviction parce que ce mal-être, on va dire, traînait déjà depuis plusieurs mois dans la saison passée.
Il y avait un problème avec le groupe, Laurent, non?
Je peux pas trop étaler comme ça parce que
je comprends bien.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Ce qui restera en interne du groupe, je veux pas l'étaler. Il y avait un problème de relationnel, pas forcément avec le groupe. Je vais en rester là, je vais pas en dire plus.
Okay,
mais
pas de souci.
Donc je l'ai vécu bizarrement, quoi, parce que moi c'est la première fois que je voyais un manager se faire évincer. En étant dans le staff, et puis Julien Lahire et Frédéric Charrier ont été nominés très rapidement pour prendre les rênes de l'équipe.
Donc au final, ça restait quand même dans une certaine continuité.
Exactement. Ça n'a pas bouleversé le projet de jeu et ça a légèrement changé la façon de travailler, mais ça n'a pas bouleversé comme si on accueillait un nouveau manager qui venait tout changer, tout voir tout différemment.
Donc on et est dans l'émission, ça n'a rien changé non plus.
Ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé. Alors Julien m'en demande encore plus parce que je sais qu'il est un garçon très exigeant, mais je réponds sans problème à ses demandes et elles sont tout à fait logiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ça se passe très très bien et franchement, j'espère que pour ma première année avec l'UBB, on va pouvoir accrocher minimum le top 6 parce que la Coupe d'Europe, depuis le week-end dernier, c'est derrière nous. Hein. On n'a pas fait une bonne campagne européenne, mais je pense qu'on pouvait pas jouer sur tous les tableaux. Avec le chamboulement qui s'est passé dans le club, je pense qu'on se serait peut-être cramé à vouloir tout jouer en même temps. Là maintenant, on n'a plus la Coupe d'Europe. Maintenant, on est focus championnat. Et là, comme on est focus championnat et qu'on n'a plus qu'une seule compétition, on n'a pas le droit de se louper. Et donc voilà, on est vraiment focus là-dessus. Et peut-être que c'est une chance qui va nous faire faire une, en tout cas, la meilleure fin de saison possible pour cette saison.
Un mot sur les problèmes qui sont actuellement en tête de la Fédération française de oui. rugby avec l'affaire Laporte. Donc j'ai appris aujourd'hui dans l'équipe qu'il avait été placé en garde à vue pour une nouvelle infraction sans rapport avec la précédente, mais bon qui peut remettre en cause sa légitimité.
Ton sentiment blanchiment fiscal. J'ai lu les gros titres comme ça. L'ensemble des lecteurs et des auditeurs. Voilà, blanchiment fiscal caché. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon voilà. Ouais.
Ouais.
On a du mal, nous, avec les grandes fédérations. Au football, rugby, on est à peu près dans le même trend.
Ouais, je trouve ça dommage. C'est pas dommage parce que Bernard Laporte est quand même un grand monsieur du rugby français. On en pense ce qu'on en veut. Hein. Je pourrais être le premier à le critiquer au vu de ce qui s'est passé entre lui et moi en 2014.
Avec Toulon.
Voilà, je pourrais être le premier à me venger petitement, on va dire... presque 8 ans après, enfin plus 10 ans après, pas peu moins 8 ans après, c'est bien ça, mais je trouve ça inutile. Moi je reconnais l'homme et ce qu'il a fait pour le rugby, ce qu'il a fait pour le rugby français. J'ai pas du tout la vue ou d'avis sur le hors rugby, je vais l'appeler comme ça.
Ouais, moi je pense que ces problèmes là il faut pas entrer dedans parce qu'on connaît
ouais,
pas.
Ouais, non, j'ai pas d'avis politique, il y a l'opposition qui est là qui veut apporter une nouvelle vision au rugby français et forcément elle s'appuie sur tous ces déboires.
Oui, et puis dans ce monde-là, je pense que Laurent, dans ce monde-là, c'est un monde où que nous on n'a pas accès déjà et que c'est compliqué.
Non, voilà, ouais, franchement je ferais que si je répondais plus précisément, je ferais que de la spélculation parce que j'ai aucun élément qui me permettrait de débattre là-dessus. Si je donne mon point de vue extérieur, moi je trouve que Bernard Laporte a fait énormément pour le rugby français, pour l'équipe de France. Aujourd'hui, si l'équipe de France en est là où elle est, je suis désolé, mais c'est quand même par l'action de l'équipe Bernard Laporte. Alors, il y a forcément des choses qui ne vont pas hein, dans ses mandats présidentiels, mais
c'est bien voilà, d'agir comme ça parce que tu parles carrément purement sportif et ça c'est bien, ça ressemble.
Je jouerai dans ce qui me concerne et ce qui me regarde. Et puis en plus, encore une fois, je vous l'ai dit, je me vois pas spéculer sur il a fait ça, il a fait ci, voilà mon avis.
Il y en a beaucoup qui seraient plus présidents.
Voilà, c'est comme si on me demandait, oui, voilà, nombre d'hommes politiques qui ont des affaires plus ou moins cachées.
Ouais. Par contre, j'aurais
moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font, quoi.
Ouais. Par contre, j'aurais une dernière question à te poser si on en a le temps. Le sifflet, ça manque ou ça manque pas à Laurent?
Alors, ça manque au niveau professionnel. La transition. Alors, grâce à mon poste à l'UBB, du coup, cette transition s'est faite plutôt naturellement. Ça m'a manqué au moment de la reprise juillet-août, là, quand tu reprends pas tes crampons, quand tu refais pas les matchs amicaux, quand tu ne repars pas t'entraîner pour préparer tes tests physiques, etc. Ça m'a manqué. Mais là, aujourd'hui, très sincèrement, c'est passé. On me demande. On m'a posé la question cet après-midi au club, à l'UBB. On m'a dit alors Laurent, l'arbitrage, tout ça. J'ai dit de haut niveau, oui un peu, mais je me verrais pas reprendre le sifflet pour arbitrer les séries régionales avec tout le respect que j'ai pour le rugby amateur. Bien sûr. Mais voilà, quand on a connu 14 ans de stade de haut niveau, on va pas reprendre le sifflet pour arbitrer un match de troisième série ou de promotion d'honneur. Et encore une fois, j'ai énormément de respect pour le rugby amateur. Je viens du rugby amateur, donc
faut toujours s'arrêter sur une
sur
une saison.
Je préfère m'arrêter sur le plus haut niveau. J'ai fait une finale de Pro D2, ça a été mon dernier match. Là, j'ai posé mon sifflet. Alors, je l'ai pas tout à fait posé puisque j'arbitre les oppositions, soit au SA15, soit à l'UBB. Donc, il me sert encore. Les cartons ne me servent plus, mais mon sifflet me sert encore. Ouais. Et voilà, c'est bien d'avoir clôturé ma carrière comme ça. Et voilà, j'avais pas l'intention de refaire. Si la Fédération française de rugby m'avait proposé de continuer un an ou deux ans de plus au niveau professionnel, je l'aurais accepté. Mais comme je n'ai pas accepté de devenir arbitre vidéo ou arbitre de touche ou je sais pas quoi là, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ces fonctions-là. Quand on a fait 14 ans de haut niveau, je me vois pas tenir un drapeau tous les week-ends pour courir le long des lignes. Voilà, je suis désolé. Didier Méné, que je respecte énormément, qui était l'ancien patron des arbitres, disait quand on a été président, on revient pas premier ministre. Mm-hmm. Ben voilà, tout simplement.
Moi, j'avais aussi une dernière question pour toi. Tu collabores du coup avec des clubs de top 14 et de Pro D2. Est-ce qu'on s'adresse de la même manière à des joueurs bah, des deux niveaux distincts, que ce soit par la forme ou par le fond.
Oui, tout à fait. Moi, je prends pas de gants. Hein. Si y a un mec, je lui dis qu'il a fait une faute de merde et qu'elle était totalement inutile et qu'elle a mis dans la merde l'équipe, bah, je vais lui dire très clairement, peu importe le nom que j'ai en face de moi. Parce que c'est un, parce que ces mecs-là, non ou pas non, ils ont besoin d'entendre ce genre de choses. Bien évidemment, on fait pas ça dans la presse, on fait pas ça en collectif, on fait pas ça devant des gens qui sont complètement hors groupe. Voilà, mais pour les deux, que ce soit au SA15 ou à l'UBB, on fait ça dans l'intimité sportive.
Oui,
le mec, on peut lui dire quelque chose, mais dans l'intimité sportive, dans ce qui se passe, tout à l'heure, on l'a dit, vous l'avez dit, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Évidemment.
Ben voilà. Ben
et
c'est
techniquement,
ça.
Et techniquement, est-ce que ton discours change un peu? Est-ce qu'il est peut-être plus édulcoré en premier deux? Ou finalement?
On parle pas de la même chose, ouais, on parle pas de la même chose. J'ai du mal à m'adresser je dois m'adresser différemment, dans l'approche technique avec les joueurs du SA15 qu'avec les joueurs de l'UBB parce qu'on n'est pas les, il y en a un qui est quatrième du championnat top 14 et l'autre qui est avant-dernier du championnat pour les deux. Donc, ils ont pas besoin des mêmes choses. Je donne des choses aux joueurs du SA15. Que les joueurs de l'UBB connaissent par cœur déjà depuis plusieurs mois avec lesquels je travaille.
Voilà, c'était justement le but de ma question.
Voilà, donc je vais beaucoup plus loin avec les joueurs de l'UBB dans la finesse de ce qu'ils font. Chaque action est détaillée. On est plus dans le débourrage, on va dire, avec les joueurs de Pro 2 où ils ont besoin de la base, de s'en sortir de la base avec des choses simples. Et c'est dans les choses simples qu'on retrouve l'équilibre, quoi. Et c'est ça qu'ils ont besoin.
Ok, ça marche. Eh bien, du coup, Didier a eu un petit souci technique, donc je vais conclure pour lui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Laurent. C'était
avec grand plaisir,
d'avoir parlé avec toi durant une grosse heure de rugby, d'arbitrage et puis de nutrition. Là, et puis on se retrouve la saison prochaine pour faire un point en espérant que l'UBB ait gagné le titre tant recherché et que le SA15 soit en Pro D2.
Je l'espère vraiment, vivement pour les deux clubs.
Salut Laurent.
À bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt Laurent.
À bientôt, Didier.
Écoute Attitude en FM sur Internet et où que vous soyez avec tablette et smartphone via l'application TuneIn.